Laureline Gallio, je suis designer et peintre.
Alors, on me disait que vous avez commencé par la danse.
Oui,
vous
tout
êtes
à fait.
Venue aux arts plastiques.
Tout à fait.
Alors, comment ça se fait, cette affaire-là? Et puis, en quoi cette formation en danse que vous pouvez avoir, cette culture de la danse, elle influe votre travail de plasticienne?
Alors, la première chose, c'est d'être curieux. On fait un parcours comme ça en étant curieux de plusieurs pratiques. Donc c'est vrai que j'ai commencé par la danse. Ensuite, via la danse, on découvre le monde du théâtre, en fait. L'envers du décor, les décors de théâtre, la peinture, les costumes.
Oui.
Et alors, du coup, en faisant de la danse, je me suis intéressée ensuite aux costumes et à la mode. Donc j'ai fait une formation initialement, après avoir fait de la danse, initialement pour faire des motifs textiles. Donc vous savez, tous les décors qu'on porte aujourd'hui sur nos vêtements, par exemple, ou qu'on met dans la maison, sur les rideaux ou sur les tapis. Et donc j'ai fait ça et ensuite je me suis dit, mais qu'est-ce que ça donnerait si on faisait des peintures en 3D ? Alors, ça paraît bizarre comme ça, mais en fait, et c'est là que ça rejoint l'exposition, c'est que je vais utiliser des logiciels qui vont me permettre de peindre en trois dimensions et de fabriquer des objets en peignant en trois dimensions. Alors, ça paraît un peu abstrait, mais aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on a des casques en réalité virtuelle. Et en fait, vous avez des manettes dans les mains, un casque sur les yeux, et vous dessinez en fait ces espèces de traits, des coups de pinceau dans l'espace qui vont s'agglomérer les uns ensemble.
Ouais.
Ça va faire une espèce de magma coloré, si vous voulez. C'est un peu comme de la pâte à modeler en virtuel. Et à partir de ça, moi, je vais venir, toujours dans les logiciels 3D, découper, pratiquer des trous et donc les transformer en objets. Donc c'est ce que vous avez ici sous vos yeux. Donc je vais travailler, par exemple, autour de ce qu'on appelle la typologie en design. Donc la typologie de, par exemple, le pichet ou de la théière. Alors là, il y en a une là-bas, de théière. Et en ayant en tête cette idée de « Ah, ça devrait pouvoir contenir de l'eau, qu'il y ait une poignée », et bien je vais doucement aller sculpter en fait ce magma coloré pour qu'il puisse répondre à cette exigence de l'usage. Donc là, on a par exemple un pichet, ici c'est une petite tirelire, alors qui reprend l'archétype du petit cochon, parce qu'on connaît tous cette petite résurgence du cochon à la tirelire. Donc j'ai essayé de faire un espèce de cochon, un petit cochon peint en 3D. Après, je travaillais sur les masses, etc.
Donc, oui, dans ce que vous dites, je comprends mieux, il y a une dimension gestuelle de la création au départ. Il y a la couleur et le geste au départ.
Il y a la couleur, le geste, et la danse, la qualité de geste, c'est un truc. En fait, moi, avant d'être designer, je suis quelqu'un qui apprécie particulièrement les gestes, que ce soit chez les artisans, les peintres, dans le sport, et donc il va chercher à qualifier tout ça. Et donc, effectivement, je vais avoir je vais pas être effrayée d'aller dans l'espace VR, parce qu'en fait, je suis habituée à explorer l'espace avec mes mouvements, en fait. Donc il y a cette espèce d'aptitude que j'avais comme ça en germe depuis longtemps.
Ce que vous racontez me fait penser à la calligraphie, pour l'avoir pratiquée un petit peu personnellement, dans la calligraphie chinoise. Avant de calligraphier sur du papier, on calligraphie dans l'espace.
Exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ils sont très forts à faire de la calligraphie dans des très grandes échelles.
Oui,
absolument. On ne sait pas forcément
faire ça.
Parce que
c'est tout le corps qui trace.
Exactement, c'est complètement. Voilà.
C'est pas juste la main.
Oui, exactement.
D'accord. Bon, bah alors, voilà. J'invite nos auditeurs à venir voir, découvrir ces pièces qui sont maintenant figées, mais qui sont le résultat d'un mouvement coloré, on va dire.
Mais très bien, c'est ça.
Merci.
Donc, de rien, je vous en prie.
Donc, vous êtes Pete Molling, c'est ça?
C'est ça, oui.
Luxembourgeois, si j'ai bien retenu.
Oui.
Alors, quel est votre travail? Quel travail vous présentez, surtout, déjà?
Ouh, ça, c'est...
Par rapport à... C'est un travail déjà pour dire, peut-être pour vous donner un point d'appui. J'ai envie de dire, vous êtes dans l'exposition, je trouve, c'est ce qui est le plus proche. Il y a la nature qui est très proche. Hein. Il n'y a pas que vous.
Oui.
Mais il n'y a pas de conflit du tout entre ce qui est nature et ce qui est virtuel, 3D, imprimante 3D, sais-je. Alors, comment vous travaillez exactement?
Ben, en général, tout d'abord, j'ai une démarche, je dirais une inspiration, et ça, c'est bien évidemment la nature.
Ouais.
Je dis toujours que les motifs que je retrouve dans la nature sont évidents. Je ne dois pas les mettre en question, comme la structure d'un arbre, par exemple.
Ouais.
Je ne dois pas vraiment la mettre en question. Si maintenant je travaille en digital, le problème, c'est que j'ai tellement de possibilités. C'est tout un nouveau monde, je dirais. Et je dois me redresser plutôt. Donc, si maintenant je travaille avec un motif que je ne dois pas encore pas trop mettre en question, je peux directement me concentrer sur ma pratique, sur les solutions qui, sur les solutions qui posent des problèmes. Pardon, maintenant je suis en train. Oui, en fait, si j'ai un problème, je peux directement trouver une solution sur le problème sans m'occuper trop du motif.
Alors, est-ce qu'on peut illustrer par un exemple concret sur une des œuvres qui est présentée ? Parce que ce ne soit pas trop abstrait pour nos auditeurs.
Oui, essayons. Peut-être c'est mieux si j'explique un peu ce qu'on voit. Donc, on a en fait ces trois arbres qui sont continués par des impressions 3D. Et ici c'est sur le thème de la mimesis, donc l'imitation. La mimesis qui joue un rôle dans l'histoire de l'art, donc c'était d'abord l'imitation de la nature et après c'était la continuation de la nature. Donc moi j'essaie ici vraiment de travailler sur ce sujet de la continuation par le biais de l'impression 3D. On voit autour des œuvres finales, parce qu'en fait au début on voulait juste poser les œuvres finales. Et puis on a constaté qu'il y a encore de la place, donc on a additionné autres objets. Et ces objets-là sont les échantillons, en fait, les essais qui ont été produits au fur et à mesure.
C'est un peu comme un carnet de croquis pour un dessinateur.
C'est bien ça. Mm-hmm. Et c'est pratique parce qu'on peut le poser avec les œuvres finales et on reçoit vraiment une installation sur la pratique que je poursuis.
Alors, on peut décrire, par exemple, le tronc que vous évoquiez, qui est devant nous. Donc, un tronc d'arbre, on a pris dans un arbre, a priori, c'est un arbre fruitier, j'ai l'impression, avec des départs de branches, et puis tout est coupé. Et vous avez continué une des branches, enfin, de morceaux de tronc, plutôt, qui a été coupé, et vous l'avez continué par une structure que vous avez créée, je puis dire.
Donc, alors,
vous parlez de continuité, là, on voit, ça continue effectivement le mouvement de l'arbre, mais vous rajoutez d'autres choses, quand même.
Je dirais que le premier truc, d'abord, c'est peut-être que je dois trouver vraiment l'angle exact.
La bonne diagonale.
Mais aussi, c'est pas moi qui coupe, en fait, le bois. Mm-hmm. Donc, c'est pas aussi que moi, je recoupe le bois. Donc,
je
prends vraiment le bois comme il est. Et avec la technologie, je m'adapte au bois.
D'accord.
C'est moi qui s'adapte avec la technologie.
Donc vous sélectionnez un morceau de bois, vous dites tiens, je pourrais faire quelque
voilà,
chose.
Voilà, et je laisse comme il est. Je vais juste le nettoyer un peu.
Et puis peut-être protéger pour pas qu'il s'abîme trop vite après.
Ah oui, il peut s'abîmer.
Ça fait partie de l'œuvre.
C'est pas grave, puisque c'est tout naturel et tout brut, ça pose pas trop de différence. Mm-hmm. Puis aussi, pour trouver l'angle parfait pour une telle structure, je peux, comme ici, je peux imprimer en creux. Donc je gagne de temps, je gagne de matériel. Et... c'est en fait un bon exemple pour les possibilités que j'ai quand je travaille en digital. Maintenant, je peux peut-être préfabriquer des choses, je peux réimprimer des choses. J'ai une certaine liberté que je ne possède pas si je travaille en analogue.
D'accord, oui. Vous n'avez pas les contraintes d'un céramiste avec son tour ni d'un sculpteur cette terre qui peut tout d'un coup s'effondrer. Là, vous n'avez pas ce genre de souci.
Je peux toujours aller en arrière et aussi je suis toujours je peux choisir ce que je veux produire ou pas. Mmh.
Bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis j'invite nos auditeurs à venir découvrir ces œuvres qui sont assez... franchement étonnante et séduisante.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.